La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Eh bien, bonjour.
Salut tout le monde.
Salut, vous avez le bonjour d'Andreas.
Eh bien, on est à la quatrième partie de la brochure sur l'enfance. On va commencer tout de suite avec la troisième partie.
Partie 3, mécanisme de légitimation et représentation de l'enfant. Une fois constatée l'existence de rapports d'autorité, je me suis interrogée sur leur légitimation, qui me semble résider dans les représentations de l'enfant. Petit 1, l'enfance, l'enfant dans le langage, les dissymétries sémantiques. Dans cette partie, je survole le champ sémantique de l'enfant et l'image qu'il véhicule. La langue nous renvoie une certaine image de la société et des rapports de force qui la régissent. Comme évoqué précédemment, le langage joue un rôle dans la constitution des catégories, à la fois en tant que véhicule et que générateur. Dans « Les mots et les femmes », M. Jagello se livre à une approche sociolinguistique du genre, analysant les différenciations opérées par la langue. J'utilise dans cette partie ses travaux comme cadre d'analyse, à la fois pour cerner ces mécanismes de différenciation et pour les mettre en lien avec le rapport de pouvoir en jeu. La langue est un système symbolique engagé dans des rapports sociaux. Aussi faut-il rejeter l'idée d'une langue neutre et souligner les rapports conflictuels. La langue est aussi un miroir culturel qui fixe les représentations symboliques et se fait l'écho des préjugés et des stéréotypes. L'idéologie est nécessairement verbalisée. La langue se nourrit des idéologies, en même temps qu'elle les véhicule et les entretient. Monsieur Jagello explique que le parallèle qui peut être établi entre toutes les formes d'oppression se retrouve dans le langage, dans la structure de la langue, dans les connotations des mots, comme dans la répartition de la parole dans les conversations. Les mots peuvent comporter différentes composantes. Une composante dénotative, qui renvoie au sens strictement descriptif, une composante connotative, correspondant à la valeur du mot sur une échelle morale ou sociale, et une composante associative, renvoyant à la place du mot dans un champ sémantique et aux relations de complémentarité, d'analogie, d'antinomie. Ce sont les deux dernières qui sont particulièrement intéressantes pour saisir les rapports de pouvoir contenus dans la langue. Les adjectifs qui désignent les sexes et les âges de la vie ont des connotations péjoratives, sénile, puéril, infantil, féminin, femelle. Seuls mâle, masculin, viril sont positifs.
Enfant, définition. 1. Être humain dans l'âge de l'enfance, de la naissance à l'adolescence. Bambin, bébé, fille, garçon, petit, familier, gosse, mioche, môme. Un enfant au berceau, un enfant calme, câlin, capricieux, turbulent, livre d'enfant, pour enfant. Lit, voiture d'enfant, il n'y a plus d'enfant, se dit quand un enfant fait ou dit des choses qui ne sont pas de son âge. Il me prend pour un enfant, pour un naïf. Ne faites pas l'enfant, soyons sérieux. Personne qui a conservé des traits propres à l'enfance, il sera resté toute sa vie un enfant. Enfantin, puéril, ou le contraire sera mûr. Enfance. Première période de la vie humaine, de la naissance à l'adolescence. Retomber en enfance se dit d'un vieillard dont les facultés mentales s'affaiblissent. Enfantillage. Manière d'agir, de s'exprimer, peu sérieuse, qui ne convient qu'à un enfant. Semblable à puérilité, péjoratif. Enfantin, qui est propre à l'enfant, a le caractère de l'enfance, péjoratif, qui ne convient guère qu'à un enfant. Très simple, très facile, élémentaire. 2. Être humain à l'égard de sa filiation, fils ou fille.
Que dire de cette définition ? Tout d'abord, on note que le premier sens d'enfant, le « la » défini comme catégorie, et le second renvoie à sa relation à l'adulte, enfant de. De la même manière que femme définit en premier la catégorie par le sexe, en second son rapport à l'homme, femme de, comme synonyme d'épouse. L'inverse n'est pas vrai. Adulte n'est pas synonyme de parent, et homme n'est pas synonyme de mari ou époux. Dans le cas des genres, des slogans féministes tels que « je ne suis pas la femme d'eux » mettent en avant que cette dissymétrie reflète l'inégalité de statut entre hommes et femmes. La deuxième étant considérée comme sous la dépendance du premier. Deuxièmement, les termes dérivés de « enfant » et appartenant au même champ sémantique, puéril et enfantillage, sont dotés d'une connotation péjorative. Si ce n'est pas intrinsèquement le cas d'enfantin, la définition précise qu'on peut également en faire un usage péjoratif. Et effectivement, dire d'une chose qu'elle est enfantine, dans le même sens que « simple comme bonjour », signifie implicitement une dévalorisation des activités propres à l'enfance et des capacités de réflexion qu'elle nécessite. N'importe qui pourrait le faire, même un enfant. Ensuite, parmi les exemples de phrases, on voit une utilisation d'enfant comme le terme dépréciatif quand il est appliqué à un adulte, renvoyant à la naïveté ou manque de sérieux, de même que l'expression « retombée en enfance » exprime une diminution des facultés intellectuelles. On est loin d'une vision embellie de l'enfance.
Tu l'as dit.
Adulte, qui est parvenu au terme de sa croissance. Âge adulte, chez l'être humain, de la fin de l'adolescence au commencement de la vieillesse. Mûr, être adulte, avoir une psychologie d'adulte. Contraire, infantile. Homme, femme, adulte, les enfants n'aiment pas rester avec les adultes. C'est un adulte à présent. Contraire, adolescente, enfant. Par contre, le seul renvoi synonymique d'adulte est mûr, qui a une connotation laudative. Si cette définition contribue à distinguer les catégories, elle renvoie également une certaine image de ces catégories, plutôt positive en ce qui concerne l'adulte, moins en ce qui concerne l'enfant. Le choix de ces définitions et de leur dissymétrie n'est pas neutre, pas plus qu'il n'est un hasard. Le dictionnaire est une création idéologique. Il reflète la société et l'idéologie dominante. En tant qu'autorité indiscutable, en tant qu'outil culturel, le dictionnaire joue un rôle de fixation et de conservation, non seulement dans la langue, mais aussi dans l'idéologie. Pour pousser plus loin ce constat, j'ai essayé de regrouper et de classer ici les différents termes utilisés pour enfants ou adultes, synthétisant des mots utilisés pour les acteurs et les actrices interrogés et observés et se trouver dans différents dictionnaires des synonymes.
Adulte. Si on exclut la série des termes descriptifs des rapports de parenté comme parents, mères, oncles, etc., puisqu'ils ne désignent pas les adultes en général, il semble que l'on trouve que grande ou grande personne. Grande ou grande personne. Ces termes sont généralement utilisés pour désigner une personne référente responsable. Il faut demander au grand, ou ne traverse pas sans une grande personne. Donc une connotation plutôt laudative. Le seul terme péjoratif que nous avons relevé est vieux, vieille, qui semble plus utilisé par des adolescents, des adolescentes, que par des petits, petites enfants. Enfant. D'abord, on trouve l'opposition à grand et ses dérivés. Petit, petite, petio, petiote, pichoun, doté d'un sens plutôt affectueux. Ensuite, à mi-chemin entre tendresse et condescendance, bouille et chérubin, dont la caricature serait la grand-mère pinçant la joue de l'enfant en s'exclamant « Oh, la bonne bouille !» Bien souvent, les enfants n'apprécient pas du tout ce genre de terme, de même que les expressions du type « mon petit cœur »,« mon petit chou », jugées ridiculisantes. Ensuite, des termes plutôt neutres sémantiquement, mais généralement connotés par le type dénoncé dans lequel ils sont employés. Ainsi, bambin et gamine prennent généralement un sens positif dans le bon gamin, gosse et mioche plutôt négatif dans des phrases du type sale gosse. On peut relever aussi la série des chenapans, diabotins, galopins, associés à l'idée de faire des bêtises, mais utilisés aujourd'hui généralement avec un ton amusé. Pubilio. Enfin, les termes ouvertement péjoratifs, voire insultants, morveux, chiard, gueulant, morpion, merdeux.
On retrouve bien ici l'idée avancée par M. Iaguello. De nombreux termes utilisés pour qualifier les enfants ont une connotation dépréciative, quand ce n'est pas le cas de ceux, bien moins nombreux, qui désignent les adultes. La linguiste explique en effet que pour toutes les catégories socialement dominées, on remarque une dissymétrie sémantique. Les termes désignant les dominés, des dominants ou dominantes ayant une valeur neutre ou laudative, tandis que beaucoup de ceux appliqués aux dominés ont une connotation dépréciative. L'oppresseur dispose généralement d'un registre de mépris infiniment plus étendu à l'égard de l'opprimé que celui-ci à l'encontre des oppresseurs. Le droit de nommer est une prérogative du groupe dominant sur le groupe dominé.
La dissymétrie sémantique va jusqu'à faire d'enfant une insulte. Dans des querelles entre adultes, il arrive que celui ou celle dont le comportement est mis en cause soit qualifié ainsi. Chez les enfants eux-mêmes, ce statut d'enfant peut être péjoratif. Ainsi, j'ai vu des collégiens, environ âgés de 12-13 ans, se lancer « T'as 8 ans d'âge mental !» Le fait que cette catégorie puisse faire l'objet d'expressions dévalorisantes semble montrer qu'elle renvoie à une position d'infériorité.
Grand 2. Deux conceptions antagonistes de l'enfant. Sale petit démon, adorable chérubin. Il s'agit ici de présenter les deux grandes conceptions de l'enfance qui ont cohabité au fil des siècles, et de voir quels liens ils entretiennent avec l'autorité. Petit a. L'enfant à dresser. La conception théologique classique de l'enfant dominante au Moyen-Âge, qui doit beaucoup à saint Augustin, présente l'enfant comme un être mauvais par nature, symbole incarné du péché, qu'il convient de redresser par la force et la contrainte, afin d'en faire une personne bonne et vertueuse. Cette idée conduit à une discipline sévère, recourant fréquemment au châtiment corporel, destiné à corriger l'âme de l'enfant. C'est cette représentation négative qui transparaît derrière l'étymologie du mot « éducation ». « Educare » signifie en latin « redresser ce qui est tordu, mal formé ». À ceci, j'ajoute une vision de l'enfant comme être imparfait par rapport à l'adulte, incapable, futile, déraisonnable. Cette vision est parfaitement illustrée par la Bible dans le livre des Proverbes. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.
Merci à toutes les personnes qui croient encore à ça. Hein. On pourrait penser qu'un certain déclin du religieux rend ces proverbes obsolètes. Ce serait négliger que, d'une part, certains catholiques basent aujourd'hui encore leur comportement sur l'interprétation de ces textes, et d'autre part, et principalement, que même si les textes ne sont plus forcément cités en référence, notre culture tout entière est imprégnée de la tradition judéo-chrétienne et que nombre de ces principes persistent même s'ils ne sont plus annoncés explicitement. Si ce genre de propos se fait rare, cette conception se retrouve en filigrane derrière des notions plus actuelles. Ainsi, ces dernières années ont connu l'émergence de l'idée d'enfant roi, sujet de nombreuses publications, articles, reportages, émissions télévisives, etc., qui imposent rapidement cette nouvelle vision de l'enfant. Au point que M6 crée Super Nanny, un reality show mettant en scène une auxiliaire puéricultrice volant au secours des familles dépassées par des enfants despotiques, accompagnés des suggestions des pédopsychiatres. Dans une profusion d'ouvrages, au titre aussi évocateur que « L'enfant roi » tout de suite, « De l'enfant roi à l'enfant tyran »,« Les drames de l'enfant sans limite »,« L'enfant chef de famille », des spécialistes expliquent que le laxisme post-68 a conduit à des générations surprotégées, gâtées, ne supportant plus la frustration et tentant de faire régner leur loi au sein de la famille. Répondent aux parents désarmés et appellent à une restauration de l'autorité, insistant sur la nécessité de poser des limites au moyen d'une revalorisation de la punition.
On peut se demander aussi dans quelle mesure la vision freudienne de l'enfance, dont l'influence et la présence dans la conception actuelle de l'éducation semblent manifestes, entre dans cette catégorie du pervers polymorphe à la nécessité de la frustration, du contrôle des pulsions, de l'apprentissage de la censure, du « ça » qui se font dans le rapport à l'autorité parentale. Les débats récents sur la délinquance, plaçant le « la » mineur, au centre du débat sous l'étiquette de mineur délinquante-délinquante, semblant refléter cette même vision, présente aussi bien dans la loi sur la prévention de la délinquance incluant son dépistage précoce dès 36 mois, que dans la création de nouveaux centres de détention pour mineurs. Cette première vision de l'enfant entretient un rapport évident avec l'autorité, puisque les enfants sont terribles, les adultes référents doivent être fermes, leur inculquer le respect et les valeurs morales par la force si nécessaire.
B. L'enfant à protéger. Le XVIIe siècle est marqué par la généralisation d'un sentiment nouveau porté à l'enfance, attribué par P. Ariès au développement d'une certaine tendresse maternelle. Puis de nouvelles images religieuses, notamment appuyées sur l'enfant Jésus, contribuent à répandre l'image de l'enfant comme un être pur et fragile, puisqu'il n'a pas encore personnellement commis de péché, qu'il convient de protéger. Le souci de protection juridique de l'enfance semble apparaître très tôt. Des lois interdisent l'avortement et l'infanticide au IVe siècle, sous peine d'excommunication. Les premières législations par rapport au travail des enfants apparaissent au milieu du XIXe siècle, mais ne s'institutionnalisent réellement qu'au XXe. On peut associer à cette vision toutes les considérations sur la fragilité de l'enfant, les inquiétudes concernant sa santé, son psychisme, nécessitant des soins spécifiques. Ainsi, j'ai vu des familles emmenant leur enfant chez le médecin au moindre début de toux, ce que les parents ne feraient pas pour eux-mêmes. De même, le recours aux psychologues semble en plein essor, comme en atteste l'existence de nombreux centres médico-psycho-pédagogiques. Pour exemple, Réponse Parents consacre un numéro spécial aux adolescents et adolescentes avec pour titre « Les aider à grandir ». L'adolescence y est représentée, comme souvent, comme une crise, une période de bouleversement. Si 5 pages traitent de la sexualité des adolescents, quelques autres parlent des conflits et affrontements avec la famille qui caractérisent cette période. Tout le reste, environ 60 pages, appelle à la vigilance des parents. Explique comment détecter les signes et réagir face aux risques encourus par le ou la jeune. Dans le détail sont traités les troubles alimentaires, l'anorexie et la boulimie, le suicide, la consommation de drogue, tabac, alcool, cannabis et drogue dure, le danger des mauvaises fréquentations pour un jeune influençable, l'automutilation, l'échec scolaire, la violence, etc. L'adolescent ou adolescente est bien ici représenté comme un ou une être en danger, que les parents doivent protéger à tout prix.
Médiatiquement, on nous dépeint le tableau d'enfants en danger, que ce soit au travers du prisme des comportements à risque de l'adolescent, anorexie, suicide, de risques domestiques, ingestion de produits toxiques, de la maltraitance, des abus sexuels et de la pédophilie, etc. G. Néran explique que cette nouvelle image de l'enfant victime, si elle s'appuie sur divers facteurs, attire l'attention sur la nécessité d'une prise en charge institutionnelle pour protéger l'enfant, mettant ici encore en relief l'innocence et la vulnérabilité de celui ou celle-ci. Ici, le discours est centré sur le bien de l'enfant, sa protection, son bon développement. Si le lien avec l'autorité est moins flagrant que précédemment, il est tout de même présent comme sous-entendu implicite. Parce que l'enfance correspond à une période de vulnérabilité, elle doit être protégée, et cette protection passe par une mise sous tutelle, une dépendance à l'adulte qui saura prendre les meilleures décisions pour l'enfant à la place de l'enfant. Protéger l'enfant, ainsi la société occidentale justifie-t-elle la domination exercée sur le mineur, quel que soit son âge. Ainsi explique-t-elle les mesures d'éducation qu'elle prend à son égard. La fragilité constitutionnelle et, plus encore, morale de l'enfant est invoquée pour légitimer sa dépendance envers sa famille et, dans nombre de sociétés, envers l'État dominateur suprême.